8. L'intérieur de la maison empestait le tabac, et Holly éprouva une forte envie de fumer une cigarette, pour la première fois depuis une éternité. Wilson se laissa tomber dans un fauteuil qui, comme le feu arrière de sa voiture, était rafistolé avec du ruban adhésif. À côté se trouvait un cendrier sur pied, un modèle que Holly n'avait pas revu depuis que son grand-père était mort d'un emphysème. L'infirmière sortit son paquet de cigarettes de sa poche de pantalon en nylon et en alluma une avec son briquet Bic. Elle n'en proposa pas à Holly, qui n'en fut pas étonnée compte tenu du prix des cigarettes de nos jours, et s'en réjouit. Peut-être en aurait-elle pris une. « L'argent d'abord !» dit Candy Wilson. Holly, qui n'avait pas oublié de retirer du liquide à un distributeur en se rendant à l'Institut de la mémoire, sortit son portefeuille de son sac à main et compta la somme convenue. Wilson recompta les billets et les fourra dans sa poche de pantalon, avec ses cigarettes.
« J'espère que vous allez vraiment la boucler, Holly. Dieu sait si j'ai besoin de ce fric, vu que mon salopard de mari a vidé notre compte en banque quand il a foutu le camp. Mais Madame Kelly ne plaisante pas. Elle me fait penser à un des dragons dans Game of Thrones. »
Une fois de plus, Holly passa l'ongle de son pouce sur ses lèvres et tourna une clé imaginaire. Candy Wilson sourit. Elle sembla se détendre. Son regard balaya le salon, petit et sombre, meublé de briques et de brocs dans le style des premiers colons.
C'est moche, hein? Avant, on avait une jolie maison dans la banlieue ouest. Pas un château, évidemment. Mais rien à voir avec ce taudis. Mon salopard de mari l'a vendu dans mon dos, juste avant de foutre le camp au soleil couchant. Vous savez ce qu'on dit? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je regrette presque qu'on n'ait pas eu d'enfants, pour pouvoir les monter contre lui.
Bill aurait su quoi répondre à cela, mais pas Holly. Alors elle sortit son carnet et s'intéressa au motif de sa visite.
Heath Holmes travaillait comme aide-soignant à l'Institut Iceman. Exact. On l'appelait Handsome Heath. Pour plaisanter, mais pas seulement. Il ne ressemblait pas à Chris Pine ni à Tom Hiddleston, mais il n'était pas vilain à regarder. Un chic type par-dessus le marché, de la vie générale, ce qui prouve bien qu'on ne sait jamais ce que cache le cœur d'un homme. Je l'ai découvert avec mon connard de mari, mais au moins, il n'a jamais violé ni mutilé de pauvres gamines. Vous avez vu leur portrait dans le journal ?
Holly hocha la tête. Deux belles petites blondes, arborant le même joli sourire. 12 et 10 ans, soit l'âge exact des filles de Terry Maitland. Encore un détail qui convergeait. Peut-être n'y avait-il aucun rapport, mais l'idée que les deux affaires n'en faisaient qu'une, simple murmure au départ, s'amplifiait dans l'esprit de Holly. Encore quelques éléments qui allaient dans ce sens, et le murmure deviendrait un cri.
« Qui peut faire une chose pareille ?»
demanda Wilson, mais ce n'était pas vraiment une question.
« Un monstre, voilà tout.
« Combien de temps avez-vous travaillé avec lui, Madame Wilson ?»«
Appelez-moi Candy, d'accord. Je laisse les gens m'appeler par mon prénom quand ils paient mes factures de gaz et d'électricité du mois suivant. J'ai travaillé avec lui pendant 7 ans, sans jamais me douter de rien.
D'après le journal, il était en vacances quand les fillettes ont été tuées. »«
Oui, il était à Regis, à 50 kilomètres au nord d'ici, chez sa mère, qui a raconté à la police qu'il n'avait pas bougé. »
Wilson leva les yeux au ciel.
Toujours d'après le journal, dit Holly, il avait un casier judiciaire.
Ouais, mais rien de bien méchant. Une virée à bord d'une voiture volée quand il avait 17 ans.
Elle regarda sa cigarette en fronçant les sourcils.
Normalement, les journalistes n'auraient pas dû le savoir. Les casiers des mineurs sont confidentiels. Autrement, il n'aurait sans doute pas été engagé à l'Institut Iceman, malgré sa formation militaire et ses 5 ans chez Walter Reed.
Vous le connaissiez très bien, apparemment.
Surtout, n'allez pas croire que j'essaie de le défendre. J'ai bu quelques verres avec lui, mais c'était pas des rancards, rien à voir. Parfois, après le boulot, on allait au Shamrock en bande. À l'époque où j'avais encore les moyens de payer une tournée quand venait mon tour. Mais c'est du passé. Bref, on se surnommait les 5 amnésiques, rapport à...
J'ai compris, dit Holly.
J'en suis sûr. Et on connaissait toutes les plaisanteries sur Alzheimer. Méchantes pour la plupart, alors que nos patients, dans l'ensemble, sont adorables. Mais on se les racontait pour... Je sais pas. Pour essayer de vous rassurer. Ouais, voilà. Vous voulez une bière, Holly?
D'accord, merci.
Elle n'aimait pas beaucoup la bière, et ce n'était pas recommandé quand on prenait du Lexapro, mais elle souhaitait poursuivre la conversation. Wilson s'absenta et revint avec deux Bud Light. Elle ne proposa pas de verre à Holly, pas plus qu'elle ne lui avait proposé de cigarette.
« Moi, j'étais au courant de cette virée »,
reprit-elle en s'asseyant dans le canapé rafistolé qui laissa échapper un soupir de lassitude.
« On était tous au courant. Vous savez comment c'est. Les gens se confient quand ils ont bu quelques verres. Mais rien à voir avec ce qu'il a fait en avril. J'arrive toujours pas à y croire, quand je pense que je l'ai embrassé sous le gui à Noël dernier. »
Elle frissonna, ou fit semblant.
« Donc il était en vacances la semaine du 23 avril. »
« Si vous le dites. Je sais juste qu'on était au printemps, rapport à mes allergies. »
Sur ce, elle alluma une autre cigarette.
« Il a dit qu'il allait à Regis. Sa mère et lui voulaient organiser une cérémonie religieuse pour son père mort un an avant. Une cérémonie du souvenir, comme il disait. Et peut-être qu'il y est vraiment allé. Mais il est revenu pour tuer ces deux gamines de Trotwood. Aucun doute là-dessus. Les gens l'ont vu. » Et les vidéos de surveillance d'une station-service le montrent en train de faire le plein.
« De quel véhicule ?» demanda Holly.
« Une camionnette ?»
On appelait ça orienter un témoignage, et Bill n'aurait pas apprécié, mais elle ne pouvait pas s'en empêcher.
« Je ne sais pas. Je me souviens plus si les journaux en ont parlé. Son pick-up sûrement. Un Tahoe, customisé. Une jante personnalisée, des chromes partout. » Avec une cellule amovible pour le camping. Il a pu les emmener là-dedans. Peut-être qu'il les a drogués, en attendant de... Vous voyez quoi? Abuser d'elle.
Seigneur.
Mais...
dit Candy Wilson, en hochant la tête.
C'est le genre de choses qu'on ne veut pas imaginer, mais en même temps, on peut pas s'en empêcher. Moi, en tout cas. Ils ont retrouvé son ADN aussi. Comme vous le savez certainement, vu que c'était marqué dans le journal. Et j'ai vu Heath cette semaine-là, car il est venu travailler une journée. « Ça te manque le boulot, hein ?» je lui ai dit. Il n'a pas répondu. Il m'a juste adressé un sourire à vous glacer les sangs et il a continué à avancer dans l'aile B. Je l'avais jamais vu sourire comme ça, jamais. Je parie qu'il avait encore le sang des gamines sous les ongles, peut-être même sur sa bite et ses couilles. Bon sang, j'ai la chair de poule rien que d'y penser.
Holly aussi, mais elle ne le dit pas. Elle but une gorgée de bière et demanda quel jour c'était.
Comme ça, but en blanc, je pourrais pas vous le dire. C'était après la disparition des gamines, en tout cas. Et, vous savez quoi? Je crois bien que je peux retrouver la date, car j'avais rendez-vous chez le coiffeur ce jour-là après le boulot. Pour ma couleur. J'y suis pas retourné depuis. Comme vous pouvez le voir, j'imagine. Et une minute.
Elle se dirigea vers un petit bureau installé dans un coin de la pièce et revint avec un agenda qu'elle feuilleta.
« Ah, voilà, Debbie's Airport, le 26 avril. »
Holly nota la date et ajouta un point d'exclamation. C'était le jour où Terry avait rendu visite à son père pour la dernière fois. Sa famille et lui avaient pris l'avion le lendemain pour rentrer.
« Peter Maitland, connaissait-il Monsieur Holmes ?»
Wilson répondit par un éclat de rire.
« Peter Maitland ne connaît plus personne, ma jolie. L'année dernière, et même au début de cette année, il avait encore quelques moments de lucidité. Il pouvait encore aller seul à la cafette et réclamer un chocolat. Généralement, les choses qu'ils aiment, ils s'en souviennent plus longtemps. Maintenant, il reste assis là, à vous regarder. Si un jour j'attrape cette saloperie de maladie, j'avalerai un flacon de comprimé pour en finir pendant que les cellules de mon cerveau savent encore à quoi servent ces médocs. Mais si vous me demandez si Heath connaissait Maitland, la réponse est oui, évidemment. Certains aides-soignants passent d'un service à l'autre, mais Heath restait affecté aux chambres impaires de l'aile B. Il affirmait que certains patients le reconnaissaient, même quand ils avaient quasiment perdu la boule. Et Maitland occupe la chambre B5.
Le jour où vous avez aperçu Heath, il se rendait dans la chambre de Maitland?
Sûrement. Je sais un truc qui n'était pas dans le journal, et vous pouvez être sûr que ça aurait fait du raffut au procès, s'il avait eu lieu. Quoi donc, Andy? C'est quoi ce truc?
Quand la police a appris que Heath était revenu au centre après les meurtres, ils ont fouillé toutes les chambres de l'aile B, en s'intéressant particulièrement à celle de Maitland, car Cam Milinski avait vu Heath en sortir. Cam, c'est l'agent d'entretien. Il a remarqué Heath parce qu'il était en train de nettoyer le sol. Cam, je veux dire. Et Heath a glissé. Il est tombé sur le cul.
Vous en êtes sûr, Candy?
Absolument. Mais c'est pas tout. Ma meilleure amie, parmi les infirmières, une femme qui s'appelle Penny Prudhomme, elle a entendu un des flics parler au téléphone après avoir fouillé la chambre B5. Il a dit qu'ils avaient trouvé des cheveux blonds. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça, hein?
Je pense qu'ils ont fait des analyses d'ADN pour savoir s'ils appartenaient à une des filles Howard.
Un peu, mon neveu, comme dans les experts.
Les résultats n'ont jamais été rendus publics, si?
Non. Mais vous savez ce que les flics ont découvert dans le sous-sol de Madame Holmes, hein?
Holly hocha la tête. Ce détail, lui, avait été rendu public. Et en lisant cette information, les parents avaient dû recevoir une flèche en plein cœur. Sans doute qu'on en avait parlé à la télé également.
De nombreux prédateurs sexuels gardent des trophées, dit Candy avec autorité. J'ai vu ça dans Forensic Files et Dateline. C'est un truc courant chez ces cinglés.
Même si Heath Holmes ne vous a jamais donné l'impression d'être cinglé,
il le cache,
répondit Candy Wilson d'un ton inquiétant.
Pourtant, il ne s'est pas donné beaucoup de mal pour dissimuler son crime, n'est-ce pas? Plusieurs personnes l'ont vu. Il a même été filmé.
Et alors? Il est devenu cinglé. Et les cinglés n'en ont rien à foutre.
Je suis certaine que l'inspecteur Anderson et le procureur de Flint City ont dit exactement la même chose au sujet de Terry Maitland, pensa Holly. Même si certains serial killers, des prédateurs sexuels, pour reprendre le terme employé par Candy Wilson, échappent à la police pendant des années, comme Ted Bundy ou John Wayne Gacy.
Holly se leva.
Merci infiniment de m'avoir accordé un peu de votre temps.
Remerciez-moi en vous arrangeant pour que Madame Kelly ne sache pas que je vous ai parlé.
Promis.
Alors que Holly franchissait la porte, Candy demanda.
Vous êtes au courant pour sa mère, hein? Ce qu'elle a fait après que Heath s'est suicidé en prison.
Holly s'arrêta, ses clés de voiture à la main.
Non. C'était un mois plus tard. Vous n'êtes pas allé aussi loin dans vos recherches, je parie. Eh bien, elle s'est pendue, comme lui. Mais dans son sous-sol, pas dans une cellule.
Nom d'un chien, elle a laissé un mot.
Pas que je sache. Mais c'est dans ce sous-sol que la police avait retrouvé une culotte tachée de sang, avec Winnie l'ourson dessus, et aussi Tigrou et Petit Gourou. Quand votre fils unique fait une chose pareille, pas besoin de laisser un mot, hein?
9. Lorsque Holly ne savait plus trop quoi faire, très souvent elle se mettait en quête d'un International House of Pancakes ou d'un Denny's. Les deux enseignes servaient des petits déjeuners toute la journée. Une nourriture réconfortante que vous pouviez manger lentement, sans vous soucier de la carte des vins ou des serveurs trop insistants. Elle dénicha un IHOP près de son hôtel. Une fois assise à une table pour deux, dans un coin, elle commanda des pancakes, un seul œuf brouillé et des galettes de pommes de terre, toujours délicieuses à l'IHOP. En attendant d'être servie, elle alluma son ordinateur et chercha le numéro de téléphone de Ralph Anderson. En vain, ce qui ne l'étonna pas vraiment. Les officiers de police étaient souvent sur liste rouge. Elle pourrait sans doute obtenir son numéro malgré tout. Bill lui avait enseigné toutes les astuces, et elle voulait absolument lui parler, car elle était convaincue que chacun d'eux détenait des pièces du puzzle qui faisaient défaut à l'autre.
« C'est une serviette, je suis un torchon, » dit-elle.
« Pardon, madame ?»
La serveuse lui apportait son dîner.
« Je disais que je mourrais de faim. »«
Je l'espère, avec tout ce que vous avez commandé. »
Elle déposa les assiettes.
« Cela étant, vous avez besoin de vous remplumer un peu, si je peux me permettre. Vous êtes trop maigre. »
« J'avais un ami qui me répétait toujours la même chose, »
répondit Holly. et elle eut soudain envie de pleurer. À cause de cette phrase, j'avais un ami. Le temps avait passé, et sans doute guérissait-il toutes les blessures. Mais bon sang, certaines cicatrisaient trop lentement. Et la différence entre « j'ai » et « j'avais » ressemblait à un gouffre. Elle mangea sans se presser, et sans lésiner sur le sirop d'érable. Ce n'était pas du vrai, mais il avait du goût, et ça faisait du bien de s'asseoir pour manger en prenant son temps. Son repas terminé, elle avait pris une décision, à contre-cœur. En appelant l'inspecteur Anderson, sans en informer Pelé, elle risquait de se faire virer, alors qu'elle voulait « faire son affaire de cette affaire », comme disait Bill. Mais surtout, ce serait contraire à l'éthique. La serveuse revint lui proposer du café, que Holly accepta volontiers. Au Starbucks, on ne vous réservait pas gratuitement. Et le café de l'IHOP, sans être excellent, était plutôt bon, comme le sirop d'érable. Et comme moi, pensa Holly. Son thérapeute affirmait que ces moments d'affirmation de soi au cours de la journée étaient très importants.
« Je ne suis peut-être pas Sherlock Holmes, ni Tommy et Tuppence en l'occurrence, mais je suis assez doué et je connais mon métier. Monsieur Pelé va peut-être me disputer et je n'aime pas les disputes, mais je lui tiendrai tête s'il le faut. Je ferai appel à mon Bill Hodges intérieur. »
Elle s'accrocha à cette pensée en composant le numéro de téléphone. Quand Pelé répondit, elle déclara
« Terry Maitland n'a pas tué le jeune Peterson. »
« Hein ? Vous avez bien dit ce que... »
« Oui. J'ai découvert des choses très intéressantes ici, à Dayton, Monsieur Pelé. Mais avant de vous faire mon rapport, j'aurais besoin de parler à l'inspecteur Anderson. Y voyez-vous une objection ?»
Contrairement à ce qu'elle redoutait, Pelé ne se mit pas en colère.
« Il faut que j'en réfère à Howie Gold. » qui demandera à Marcy. Mais je pense qu'ils seront d'accord l'un et l'autre.
Holly se détendit et but une gorgée de café.
Tant mieux. Voyez ça avec eux le plus vite possible et communiquez-moi son numéro. J'aimerais lui parler dès ce soir.
Pour quelle raison? Qu'avez-vous découvert?
Laissez-moi vous poser une question. Savez-vous s'il s'est produit quelque chose d'inhabituel à l'Institut de la mémoire Heinzmann? Le jour où Terry Maitland a rendu visite à son père pour la dernière fois.
Inhabituel.
Cette fois, Holly n'influença pas le témoin.
N'importe quoi. Vous ne le savez peut-être pas, mais peut-être que si. Terry a peut-être raconté quelque chose à sa femme en rentrant à leur hôtel, par exemple.
Non, je ne vois pas. À moins que vous fassiez allusion au fait que Terry a bousculé un aide-soignant en repartant. L'homme est tombé à cause du sol mouillé, mais c'est un simple accident. Aucun des deux n'a été blessé.
Holly serra le téléphone dans sa main, à en faire craquer ses jointures.
Vous ne m'aviez pas raconté ça?
Ça ne me semblait pas important.
Voilà pourquoi il faut que je parle à l'inspecteur Anderson. Il me manque des pièces du puzzle. Vous venez de m'en donner une. Il en possède peut-être d'autres. Et puis, il peut découvrir certaines choses auxquelles je n'aurai pas accès.
Vous êtes en train de dire que cette collision, au moment où Maitland repartait, pourrait avoir un intérêt quelconque? Si oui, lequel?
Laissez-moi parler à l'inspecteur Anderson d'abord, s'il vous plaît.
Il y eut un long silence. Puis Pelé répondit.
Je vais voir ce que je peux faire.
La serveuse déposa la note sur la table, au moment où Holly rangeait son portable.
Ça semblait sérieux,
lâcha la jeune femme. Holly lui sourit.
Merci pour le service.
La serveuse repartit. L'addition s'élevait à 18 $ et 20 cents. Holly laissa un billet de 5 $ sous son assiette. Beaucoup plus que le pourboire conseillé. Mais elle brûlait d'excitation. 10. À peine venait-elle de regagner sa chambre que son portable sonna. Numéro inconnu, indiquait l'écran.
Allô, ici Holly Gibney. Qui est à l'appareil?
Ralph Anderson. Alec Pelé m'a donné votre numéro, Madame Gibney, et il m'a expliqué ce que vous faisiez. Ma première question est la suivante. Savez-vous ce que vous faites, justement?
Oui.
Holly avait bien des soucis, et malgré des années de thérapie, elle était habitée par de nombreux doutes, mais de cela, elle était certaine.
Peut-être que oui, et peut-être que non. dit Anderson. Je n'ai aucun moyen de le savoir, n'est-ce pas ?
En effet, confirma-t-elle. Pas pour le moment, du moins.
Vous avez déclaré à Alec que Terry Maitland n'avait pas tué Frank Peterson. Vous sembliez très sûr de vous, a-t-il précisé. Je me demande comment vous pouvez émettre une telle affirmation, alors que vous vous trouvez à Dayton et que le meurtre en question s'est produit ici, à Flint City.
Parce qu'un crime similaire a été commis ici au moment où Maitland se trouvait en ville. Ce n'est pas un petit garçon qui a été tué, mais deux fillettes. Même mode opératoire, grosso modo. Viol et mutilation. L'homme arrêté par la police affirmait être resté chez sa mère, à 50 kilomètres de là, et celle-ci l'a confirmé, mais des gens l'ont vu à Trotwood, la banlieue où les fillettes ont été enlevées. Il a été filmé par des caméras de surveillance. Ça vous évoque quelque chose ?
Oui, mais cela n'a rien de surprenant. La plupart des meurtriers inventent un alibi quelconque quand ils se font prendre. Même si vous n'avez jamais été confronté à cela en courant après des fugitifs, Alec m'a expliqué que c'était l'activité principale de votre agence. Vous l'avez sûrement vu à la télé.
Cet homme était aide-soignant à l'Institut Iceman et, alors qu'il aurait dû être en vacances, il s'est rendu à son travail au moins une fois durant la semaine où M. Maitland était là pour voir son père. Lors de la dernière visite de M. Maitland, le 26 avril précisément, les deux meurtriers présumés se sont tombés dessus, littéralement parlant.
« Vous voulez rire ?»
s'écria Anderson. « Non. Mon ancien partenaire chez Finders Keepers aurait appelé ça une situation non risible. Alors, j'ai éveillé votre curiosité ?»
Pelé, vous a-t-il dit que cet aide-soignant avait griffé Maitland en tombant, qu'il a voulu se retenir à lui et lui a égratigné le bras ?
Holly ne répondit pas. Elle pensait au film qu'elle avait emporté. Elle n'avait pas pour habitude de se lancer des fleurs. Ce choix ressemblait à un coup de génie intuitif néanmoins. Mais avait-elle douté un seul instant que l'affaire Maitland sortait de l'ordinaire ? Non. Essentiellement grâce à son expérience avec le monstrueux Brady Wilson Hartsfield. Ces choses-là ont tendance à élargir votre sens de l'analyse.
Et ce n'est pas la seule coupure.
Anderson semblait se parler à lui-même.
Il y en a eu une autre, ici cette fois, après le meurtre de Frank Peterson.
Encore une pièce manquante.
Dites-moi, inspecteur, dites-moi.
Je pense que... Non, pas au téléphone. Pouvez-vous venir ? Il faut qu'on se parle. Vous, moi, Alec Pelé, Howie Gold, et un inspecteur de la police d'État qui a enquêté sur cette affaire lui aussi. Et peut-être Marcy également.
Très bonne idée. Mais je dois d'abord en discuter avec mon client, Monsieur Pelé.
Parlez-en plutôt à Howie Gold. Je vais vous donner son numéro.
Le protocole ?
Alec travaille pour Howie. Aucun problème de protocole, donc.
Holly réfléchit.
Pouvez-vous contacter la police de Dayton et le procureur de Montgomery County ? Je n'arrive pas à obtenir tous les renseignements que je voudrais au sujet des meurtres des fillettes et de Heath Holmes, l'aide-soignant, et je pense que vous aurez plus de chance.
Le procès de ce type n'a pas encore eu lieu. Dans ce cas, je doute qu'ils acceptent de livrer des infos.
Monsieur Holmes est mort.
Holly marqua une pause.
Comme Terry Maitland.
Bon Dieu.
Murmura Anderson.
Ça devient de plus en plus dingue.
Et ce n'est pas fini, dit Holly.
Encore une chose dont elle était sûre.
En effet,
dit Anderson.
Les asticots dans le melon.
Pardon ?
Non, rien. Appelez M. Gold, d'accord ?
Je continue à penser que je ferais bien d'appeler M. Pelé d'abord, pour être sûr.
Si vous y tenez. Et Mme Gibney ? J'ai l'impression que vous connaissez votre travail.
Cela la fit sourire. 11. Après avoir obtenu le feu vert de M. Pelé, Holly appela aussitôt Howie Gold. Nerveuse, elle marchait de long en large sur la moquette bon marché de sa chambre d'hôtel, en tapotant compulsivement sur son Fitbit pour prendre son pouls. Oui, M. Gold estimait qu'il serait bon qu'elle les rejoigne. Et non. Elle n'avait pas besoin de voyager en classe éco.
« Prenez un billet en business, »
lui dit-il.
« Il y a plus de place pour les jambes. »«
Très bien. »
La tête lui tournait.
Vous pensez réellement que Terry n'a pas tué le petit Peterson ?
Tout comme je pense que Heath Holmes n'a pas tué ses deux fillettes, dit-elle. À mon avis, c'est quelqu'un d'ailleurs, un outsider.